Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC débrief la sixième manche du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Miami. Il s'est passé plein de trucs, vraiment. Moi en tout cas, je me suis régalé. J'ai hâte d'avoir l'avis de nos ingénieurs parce que ça a été un week-end plein de rebondissements avec une course sprint, avec une nouvelle victoire d'Oscar Piastri qui est définitivement le patron de ce début de saison, ça c'est une certitude, mais il a livré un combat à Max Verstappen. Il y a une bagarre entre Norris et Verstappen sur la piste de dingue, et derrière il s'est passé également plein de choses entre les pilotes Ferrari. Bref, il y a énormément de choses à débriefer. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, que vous pouvez nous mettre une petite note et qu'on va accueillir nos ingénieurs avec en premier lieu le patron, le boss, le team principal, Jean-Luc Roy from Miami. Salut Jean-Luc.
Et salut mon Nico et bonjour à tous.
T'étais à combien là du Grand Prix? 30 km, c'est ça, combien de chez toi?
Ouais, c'est exactement ça. Oui. Moi je suis à Miami Shores et le circuit est donc, tu sais, sur le parking du Hard Rock Stadium. Donc c'est effectivement au nord, ouest évidemment de Miami, puisqu'au nord-est c'est l'océan. Hein, donc ouais. Voilà. Écoute, faut reconnaître que le décor alentour n'est pas terrible, mais tu sais que les habitants de Miami Gardens, puisque c'est le village sur lequel se trouve le Hard Rock, ne voulaient pas entendre trop de bruit. Donc voilà.
Ouais, t'as pas trop. Et t'as senti un petit peu l'engouement quand même en ville? Est-ce que ça a été palpable pour toi ou pas du tout?
Bah, je dirais dans les lieux, comment vous dites, hype, branché. Oui. Ailleurs, non, pas trop. Écoute, voilà, bon, c'est un phénomène de mode, mais c'est bien exploité. Non, bah écoute, ça apporte de l'animation. Je peux dire que dans certains restaurants, on y a vu des pilotes de Formule 1, donc avec les gens qui les entourent. Non, écoute, c'est plutôt sympa. Et puis il y a tout un tas de célébrités. Alors celles-là, on les voit pas. On les voit juste sur la grille de départ. Ouais.
Ça c'est clair. Ton ingénieur du jour, Louis Gerbier, fidèle ingénieur. Lui c'est vraiment le mécano le plus fiable. Vraiment, il est tout le temps là celui-là.
Bah oui, il faut bien, il faut.
Et puis, salut Louis.
Salut, moi j'étais à 4 000 $ du Grand Prix de Miami.
D'accord. J'étais à 15 000.
Bon, après ça va, avec ton salaire, tu peux les mettre. Hein.
Voilà, franchement,
pas non plus.
10 minutes de taf et je suis en VIP là-bas.
Je vous rappelle du coup que la petite note qu'on donne là sur les plateformes de téléchargement pour noter le paddock RMC, c'est sur 5. Et j'ai hâte d'entendre les gars vos notes sur ce Grand Prix de Miami. Je commence par toi Jean-Luc. Mais bah, je me suis fait un petit pronostic sur vos notes. J'espère ne pas me tromper. Vas-y mon Jean-Luc, sur 5.
Alors, je vais pas te décevoir, mon Nico. Tu sais, je suis toujours optimiste, voire très optimiste. Et à juste titre, vous me le reprochez parfois. Écoute, je vais, c'est un peu triste, mais je vais expliquer mes raisons. Je vais rester entre 3 et 3,5, pas plus, tu vas me dire. Tu avais parié sur plus, je t'explique.
Ah ouais, j'avais parié sur plus.
Et bah ouais.
C'est énorme, ça. J'ai hâte de voir tes justifications. Louis, vas-y.
C'est moi du coup qui vais être le plus optimiste, parce que moi, je mets un vrai 4.
Ouais.
Ah bravo Louis.
Ouais. Ouais, j'étais parti sur un vrai 4 mois aussi. Voilà, hâte de savoir. Bon, les gars, c'est parti, on va se plonger dans le débrief de ce Grand Prix de Miami, 6ème manche du championnat. Le classement de la course avec la victoire d'Oscar Piastri qui continue d'enchaîner les succès et qui s'impose devant son coéquipier Lando Norris, doublé McLaren. Pour le coup, c'est ce qu'on avait pronostiqué, Louis, dans le warm-up qui est toujours dispo de jeudi dernier. Vous avez été plutôt bon là-dessus. Bon, vous n'êtes pas mouillé beaucoup, mais fallait le sortir.
Ouais, mais quand même, pour le peu de fois où je suis bon, faut le dire, c'est sympa de ta part.
C'est vrai. 4 secondes 360 d'avance sur Lando Norris.
Fais pas ton Norris.
Ouais, fais pas ton Lando. George Russell complète le podium alors que c'était un week-end où on le sentait parfois un petit peu en difficulté, mais il a été très bon en course. 4e, Max Verstappen qui a livré des luttes sublimes tout au long du week-end, mais qui a composé avec sa Red Bull. 5e place pour Alexander Albon sur sa Williams. Grosse perf des pilotes Williams. 5e, Kimi Antonelli est 6e. Charles Leclerc 7e. Lewis Hamilton Hamilton 8e. Ça s'est un petit peu frité entre les deux pilotes Ferrari. Enfin, en tout cas, on va analyser ce qui s'est passé entre les deux. 9e, Carlos Sainz. Donc, Williams place deux voitures dans le top 10 et Yuki Tsunoda prend le point de la 10e position. Tir groupé de nos Frenchies. Derrière, Isaac Hadjar, 11e, qui nourrissait quelques regrets. Esteban Ocon, qui s'est qualifié en Q3, 12e. Pierre Gasly, 13e. Et je pense qu'on a fait nos adieux, les amis, à Jack Doohan, qui a abandonné, qu'on ne reverra probablement pas dans une Formule 1. En tout cas, c'est plutôt la tendance.
Pas chez Alpine. Pas chez Alpine.
Ouais, oui. Ouais, pas sûr que ce soit chez Alpine. Ouais. Je vais vous donner quand même les résultats de la course sprint. Alors, il s'est passé énormément de choses dans cette course sprint également, mais Lando Norris s'est imposé devant Oscar Piastri. Norris qui a récupéré un petit point du coup sur Piastri. Hamilton 3e. Belle stratégie de Lewis Hamilton qui lui permet de gratter la 3e position. George Russell 4e. 5e, Lance Stroll. 6e, Yuki Tsunoda. 7e, Kimi Antonelli. Et 8e, le point de la 8e place pour Pierre Gasly, qui était vraiment heureux de partir de Miami avec un point parce que Alpine n'était pas du tout performant. Il y a eu des pénalités dans tous les sens. Max Verstappen termine dernier parce qu'il a écopé d'une pénalité. Liam Lawson également. Bref, il s'est passé 12 milliards de choses dans cette course sprint. Et je termine avec les classements du championnat du monde. 131 points désormais pour Oscar Piastri, qui a 16 points d'avance sur son coéquipier Lando Norris. Max Verstappen, 99 points. L'écart est en train de se créer entre Piastri et Max Verstappen, puisqu'il y a désormais 32 points d'écart entre les deux. Quatrième, George Russell qui recolle sur Verstappen. Hein, il est à 6 points de Max Verstappen. Et derrière, Charles Leclerc, cinquième, et bien plus loin au niveau des écuries. McLaren a désormais plus de 100 points d'avance au championnat du monde constructeur. 246 points contre 141 à Mercedes. Red Bull, 105 points. Ferrari, 94 points. Et Williams, du coup, qui se détache du reste du monde avec 17 points d'avance sur Haas. Williams qui est peut-être en train de rentrer dans la case des top teams, peut-être pas, en tout cas il faudra composer avec eux sur la fin de saison, ça c'est une certitude. Voilà, vous avez toutes les infos un peu chiffrées après cette 6e manche du championnat. Jean-Luc, il s'est passé beaucoup de choses, oui. Mais on va commencer par quand même parler de celui qui domine cette saison avec une poigne, avec une personnalité affirmée, avec un sang-froid de dingue. J'ai l'impression qu'on se répète tout le temps, mais Oscar Piastri, qui ne partait pas en pole position en plus, qui a dû se défaire de Max Verstappen, a encore fait une course XXL pour s'imposer et repartir avec la victoire.
Absolument, Nico. Écoute, on se répète comme tu le dis, et je pense qu'on va se répéter hein, pendant cette saison, parce que je ne vois pas comment, pour moi, l'homme fort est une nouvelle fois identifié comme tel par Verstappen. C'est le meilleur hommage qu'il ait pu lui rendre hein, après le dernier Grand Prix, en disant il focalise son attention sur lui et non pas sur Norris, parce que c'est son adversaire principal pour le titre. Alors, une nouvelle fois, pourquoi? Déjà, bon, ça a été rappelé partout, c'est le premier pilote McLaren à aligner 3 victoires consécutives depuis un certain Mika Hakkinen, à cheval quand même sur les saisons 97 et 98. À part Stirling Moss, il n'y a pas eu de champion, plutôt de pilote qui ne soit pas champion du monde, qui ait aligné 3 victoires. À part Stirling Moss, il faut bien se rappeler de ça. Donc c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire, Oscar Piastri. Surtout que c'est dans un environnement qui est quand même très délicat. D'une part, il fait face à un monstre, le monstre Max Verstappen, 4 titres consécutifs, donc un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, c'est parfaitement clair, hein, surtout avec effectivement les chiffres qu'il commence à affoler maintenant terriblement. Hein, c'est 64 victoires, c'est 43 pôles, bon, voilà. Et puis, un adversaire direct, Lando Norris, que tout le monde considérait après la dernière saison comme le favori du championnat du monde, parce que là aussi, on va pas passer, et à chaque phrase on est obligé de le dire, on va pas enfoncer sans arrêt Norris, mais il n'est pas du calibre, c'est tout. Et comme par hasard, eh bien les meilleurs surnages, tu l'as dit mon Nico, il est parti seulement 4e sur la grille. Alors, il y a eu des circonstances de course, il y a eu tout ce qu'on veut, et il aurait dû gagner le sprint, comme tu le sais, s'il n'y avait pas eu la sortie du safety car. On a terminé d'ailleurs la course sous safety car, ce qui est toujours pitoyable et dommageable pour un Grand Prix de Formule 1, même si c'est une course inédite, celle du samedi, mais bon, c'est pas très satisfaisant. Voilà, donc Norris a hérité de la victoire, mais il en a vraiment hérité. C'est pas son talent qui l'a permis de l'avoir, il était là, bon, c'est sur lui que c'est tombé. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Norris avec beaucoup de flegme, comme d'habitude. Il a dit, bah, le sort en a décidé autrement, et Norris a dit lui aussi, bah, le sort m'avantage à Miami. Bon, voilà, j'ai terminé pour cette longue introduction.
Ah, mais c'était très bien, Jean-Luc. C'était.
Oh, vous me flattez. T'as quelque chose à me demander.
Eh ben, même pas. Tu vois, des fois, je suis subjugué par ton talent alors que j'ai rien à te demander.
Arrête.
Bon, bah, c'est ça. Bon, on va écouter Oscar Piastri avant de faire réagir Louis.
I did a lot of things right today, but I don't think I necessarily won because I was the fastest today. I think.
Je ne crois pas avoir gagné parce que j'étais le plus rapide aujourd'hui, vraiment. J'ai choisi mes combats quand je le devais. Je suis resté patient quand je le devais et ensuite j'ai géré la course comme je le devais. Donc il y a toujours des choses sur lesquelles je dois travailler, bien sûr, hein, parce qu'il y a des moments dans la course où je n'étais pas vraiment à mon aise. Mais prendre une nouvelle victoire ici, c'est fantastique. Et d'avoir du travail à faire tout en gagnant des courses, c'est quand même prometteur. En plus, ce qu'il dit, c'est qu'il est même pas, trop à l'aise là pendant cette course-là. Louis, y a la perf de Piastri, bien sûr. Il y a quand même eu 25 premiers tours dans ce Grand Prix assez exceptionnel. On a eu une bagarre Verstappen-Piastri parce que rapidement ils se sont tirés la bourre. On a eu la remontée de Lando Norris qui s'est accroché avec Verstappen sur le premier virage, qui est reparti 6 ou 7, je sais plus, 6.
Ah, au moins 6,
Au moins 6.
Derrière Albon, je crois. Hein.
Et qui remonte et qui derrière livre un combat mais de fou furieux, Lando Norris, Max Verstappen, les deux copains. Enfin, il s'est passé énormément de choses entre les cadors sur les premiers tours de ce Grand Prix. Hein.
Un Grand Prix incroyable. Ça allait de partout sur du sec, alors que souvent on se dit c'est la pluie qui peut faire rendre un Grand Prix fou. Là, il n'y a pas eu besoin, puisqu'elle a tourné autour du circuit pendant une heure et demie, nous faisant croire qu'elle allait venir, puis elle n'est pas venue, mais on n'en a pas eu besoin du tout. Et c'est vrai que de voir autant de batailles, moi, ce qui m'a épaté, c'est qu'il y en avait à tous les niveaux, pour tout le monde. Jusqu'à Alonso derrière, ou des voitures qui ne se battent pas forcément. Là, tout le monde se battait. Parfois, c'était trois pilotes. On a vu plus tard aussi Hamilton qui a failli nous refaire une Silverstone en doublant deux d'un coup parce qu'il y en a deux qui étaient en train de se chicoter. Donc, c'était quand même vraiment hyper plaisant pour toutes ces raisons. Et moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir sur cette course, c'est justement cette espèce d'étape pas loin de la rage qu'avait Norris hier après s'être fait tasser, incident de course. J'ai hâte d'ailleurs de savoir ce que Jean-Luc a pensé de ce premier move. Mais en fait, Norris, j'ai adoré parce que j'ai eu la sensation de retrouver un peu un Norris qu'on connaissait. C'est-à-dire que je pense qu'il avait la haine de s'être retrouvé là et il a conduit un peu méchant. Et il a conduit méchant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je parle qu'on le sentait vraiment agressif. C'était presque tour qualif sur tour qualif. Et j'ai adoré sa réaction. Et finalement, il finit deuxième alors qu'il a perdu un temps fou. Il avait clairement la voiture pour finir deuxième. Mais il revient deuxième très rapidement et il fait de belles choses. Et je me dis, paradoxalement, il n'a pas gagné ce Grand Prix. Il a encore perdu des points sur Piastri. Paradoxalement, c'est peut-être le début de son retour parce que j'ai comme vu un déclic hier, je sais pas ce que vous en pensez.
T'as ressenti ça aussi, Jean-Luc ?
Dans sa manière de conduire.
Alors oui, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. La preuve, je vais monter ma note à 3,75. Voilà. Oui. Non, mais les arguments. Écoute, peut-être j'en attendais plus. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu la déception. Et Louis l'a souligné, tu l'as dit aussi. Moi, j'attendais la pluie, bien sûr, parce que la F1, c'est avec la pluie. Alors on l'a vu dans la bonne comme dans la mauvaise direction. On l'a vu pendant la sprint race. Mais là, il tombait des trombes d'eau à Miami. Donc je me suis dit, mais ça va arriver. Et ça tournait, comme le disait Louis, pendant une heure et demie tout autour. Je regardais, moi j'ai mes applis perso de météo très précises, mais c'est passé à quelques centaines de mètres, on peut dire. Mais c'est pas tombé sur le circuit. Ouais. Donc peut-être j'attendais plus, et vous le savez, évidemment, dès que la pluie arrive, surtout en cours de Grand Prix, ça brouille les pistes, ça brouille les stratégies, et on peut voir éclore des gens par leur seul talent et pas par le matériel. Alors la déception, ça vient de l'ultra-domination de McLaren. Voilà, je l'ai dit, pourquoi je donne 27 notes, qui est peut-être pas très élevé, parce qu'ils vont écraser le championnat si ça continue comme ça. Si les nouveautés qu'on attend tous, évidemment avec le nouveau triple Grand Prix, triple header qui nous attend là en Europe, alors évidemment il va y avoir beaucoup de nouveautés, mais vous vous doutez bien que McLaren, ils se tournent pas les pouces non plus, hein, donc il y aura des nouveautés également chez eux. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, tu parlais du classement constructeur, c'est effarant. 246 points, alors j'ai pas fait les recherches, hein. Après 6 Grands Prix sur 24, c'est incroyable. 141 derrière seulement pour Mercedes et 105 pour Red Bull. Autant dire que là, bon, ils peuvent s'endormir, ils sont champions du monde constructeur. Là, je ne vois pas ce qui peut se passer. Donc ma déception, elle vient de là. Alors après... Tu as raison, Louis. C'est vrai que Lando, il a été piqué au vif, il a eu une belle réaction, mais il a manqué de mordant à l'inverse, tu vois, par rapport à Verstappen.
Oui,
là où Piastri est tranchant.
Ouais.
Et j'allais dire, bah les très grands, ils font peur à tout le monde. C'est-à-dire, quand ils arrivent derrière dans le rétro, oula, le pilote qui est attaqué, bah là, ça n'est pas le cas. Lando, pour le moment, il ne fait pas peur. Peut-être ça va revenir. Hein. Et Piastri, bah, évidemment que Verstappen leur hésitait. Alors pareil, Lando, après, il a cette petite déclaration sympathique, mais « Oh, c'est un pilote rude !» Bah, t'as raison, il est 4 fois champion du monde. Mm. Attends, est-ce que tu crois qu'il est devenu 4 fois champion du monde en étant un pilote gentil ? Ça n'existe pas. Donc, il va falloir que Lando, il soit un peu plus méchant.
Mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec Louis, c'est qu'on a ressenti un petit peu plus d'agressivité chez Norris, qui avait probablement encore un peu plus de rythme que Piastri. C'est pas la première fois dans la saison où on se dit qu'il est peut-être plus rapide que lui, mais il y a rien qui se met en place. Et c'est vrai que cet incident du premier virage lui coûte assez cher. Bah, on va l'écouter, tiens, Lando Norris au micro de Canal+, hein, bien évidemment, toutes les déclarations. Canal+, le diffuseur du championnat.
Yeah, at the beginning I lost the positions, then I gained them.
Au début, j'ai perdu des positions. Ensuite, je les ai regagnées et puis j'ai terminé deuxième. Bon, je m'y attendais. Il parle de sa bataille avec Verstappen. C'était vraiment une belle bagarre. J'ai fait ce que j'ai pu et c'est toujours difficile. J'ai fait ce qui me semblait juste en tout cas. Voilà. Lando Norris qui évoque son combat avec Max Verstappen, il n'était pas trop bavard, mais ouais, ça va être un des gros enjeux aussi, c'est de voir si Lando Norris, là, lors de le retour de la Formule 1, pardon, en Europe, va réussir à retrouver de l'agressivité. Parce que c'est vrai que Piastri, Jean-Luc, tu l'as dit quand même, il est totalement piégé par la safety car en course sprint. Ça aurait pu un peu perturber derrière son dimanche, surtout que McLaren en qualification, Louis. C'est pas trop ça. Enfin, en tout cas, ils sont décevants en qualif par rapport au potentiel de la voiture, mais dès que le dimanche arrive, ils sont intouchables. Hein.
C'est peut-être un peu dépendant l'un de l'autre, d'ailleurs. Tu vois, genre en mode, de toute façon, on est large, je vais pas aller la mettre dans le mur, je préfère faire deuxième, tu vois, de partir deuxième, je sais que je serai premier, de toute façon, à la fin. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est vrai que vu comment hier ils ont écrasé le dimanche, t'as envie de te dire, bah, ils auraient dû être 1 et 2, ils auraient dû être 1 et 2 la veille, en fait, en qualif. Ouais. Et Max devrait même pas pouvoir être dans la bataille. Donc ça montre peut-être qu'ils sont pas à fond. Ça montre aussi que Max, c'est quand même en tour qualif, ah ouais, c'est quand même un monstre d'une autre planète. Et ouais, c'est clair que Norris Piastri pourrait même, voilà, s'il y avait un truc à faire encore mieux, ça serait le samedi. Mais ils en ont même pas besoin, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'ils en ont, même pas besoin. Et on a hâte quand même de voir un peu les évolutions qui vont arriver pour troubler un petit peu cette hégémonie. La course de Verstappen, Jean-Luc, qui s'est bagarré encore comme un lion, hein, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il avait un échange radio avec ses ingénieurs, c'est pour dire qu'il avait une voiture qui lui allait pas, qui glissait beaucoup. Ensuite, il s'est plaint des freins, et c'est pas la première fois d'ailleurs, depuis le début de saison, qu'il se plaint des freins. T'as vraiment la sensation qu'il met tout ce qu'il peut, en fait, à chaque lutte, à chaque bataille pour le dépasser. Tu sens que c'est une tannée pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est Piastri qui lui fait l'extérieur, hein, pour prendre le dessus, je crois. C'est le seul qui arrive à lui faire l'extérieur, hein. Sinon, tu as l'impression que personne ne peut passer Max Verstappen par l'extérieur. Il fait encore une course où il se bagarre, mais là, il est battu par la voiture, quoi.
Et voilà, écoute, c'est un talent exceptionnel, on le dit, on le redit. Encore une fois, que ferait-il dans une McLaren ou même dans une Mercedes ? Moi, j'ai tendance à penser encore un petit peu mieux que ce qu'en font les pilotes actuels. C'est dur, mais c'est la vérité. Donc, quelque part, c'est ce qui nous préserve ce suspense. C'est-à-dire que, à part lui, même si, et on va parler de Russell tout à l'heure, Russell fait le boulot, il est là, mais quand tu termines à 37 secondes du vainqueur, il n'y a rien à faire. Donc Verstappen, il est capable, sur un tour, d'ailleurs, tu as vu l'expression qu'utilisent les pilotes maintenant, c'est un tour à la max. Voilà, c'est un tour de qualif, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Lui, il dégoupille complètement, même quand il commet, dans son tour le plus rapide, il commet une petite erreur, vous l'avez vu dans le premier secteur, mais non seulement il ne lève pas le pied, il ne se dit pas c'est foutu, ça y est, j'y arriverai pas, mais il continue à attaquer comme un malade et il compense. Et il arrive à établir le meilleur tour jamais établi sur ce tracé de Miami. Donc c'est quand même un pilote absolument exceptionnel, je sais, je me répète, mais 1 minute 26 secondes 204, heureusement qu'on l'a. Et là aussi, c'est lui qui préserve l'intérêt du championnat, parce que sinon la question c'est de savoir lequel des deux pilotes McLaren va être champion du monde. Et vous le savez, moi j'ai déjà fait mon choix depuis longtemps. Donc oui, c'est pas mon choix, c'est un constat, hein. Encore conforté ce week-end. Donc je pense que sinon la saison va être longue, et heureusement on a Verstappen, et heureusement on a les trois Grands Prix à venir avec l'Europe, et heureusement les choses ne sont pas figées. Je rappelle aussi qu'à Barcelone, donc le troisième des Grands Prix qui nous attend maintenant, donc le neuvième de la saison. Pourquoi ? Alors si tu veux bien mon Nico, on abordera un petit chapitre FIA tout à l'heure. Hein. Donc ah tu bah, prévois une cagnotte de 50 000 $, puisque je vais être grossier comme d'habitude. Donc,
donc, ouais, je vais demander à notre patron Jean-Luc. Hein,
voilà, c'est ça, c'est ça. On va louer une petite... Heureusement les journalistes ne sont pas encore taxés, ça va peut-être venir. Hein, dans le monde de notre ami Mohamed, ça va peut-être venir. Mais bon, pour le moment c'est pas le cas, on peut encore dire à peu près ce qu'on veut, ou même totalement ce qu'on veut. Donc Jean revient effectivement à la bataille que nous attendons tous. Il y a le contrôle de ce fameux aileron flexible, et on l'a revu. Alors vous me direz, je suis focalisé là-dessus aussi, mais on l'a revu sur les cams embarqués. Dès qu'on a le museau de la McLaren, il me semble, alors là la FIA va mesurer, il me semble que l'aileron s'efface un petit peu plus que d'autres et procure plus d'appui que d'autres. C'est complètement au pifomètre, hein, donc ça n'a aucune valeur scientifique. Alors vont-ils perdre plus de cette application du règlement à compter seulement du 9e Grand Prix? Bah, c'est toute la question que tout le monde se pose. McLaren aussi fait de l'humour là-dessus en disant oui, bien sûr, comme notre ami Brown avec son truc, tu sais, on les avait suspectés au Brésil, je crois, d'avoir de l'eau dans les pneus à un moment. Donc il avait, vous l'avez vu, son petit bidon sur le, sur le bord de piste avec marqué eau pour les pneus. Bon, bah écoute, il faut bien faire un peu d'humour, sinon ce serait très triste tout ça.
Mine de rien, c'est vrai que Verstappen est celui qui arrive encore au championnat à nous tenir en haleine, mais il y a 32 points là, Louis. Ça commence quand même. Là, tu sens qu'en fait, il a été exceptionnel. Il arrive à maximiser à chaque fois, à prendre des points. Là, tu sens que pour le dépasser, il faut 25 tours, alors qu'un pilote peut-être, j'allais dire lambda, c'est pas des pilotes lambda, mais en tout cas,
Lando.
Un pilote qui n'est Lando, exactement.
Pas mal.
Un pilote qui n'est pas Verstappen en tout cas. Un pilote qui n'est pas Verstappen aurait pu craquer au bout de 10 tours, et tu sens que lui, il en tient 20, il en tient 25, donc c'est monstrueux. Mais mine de rien, là, il y a 32 points au championnat, et tu sens que là, ça commence à être vraiment dur de rivaliser avec les McLaren. Hein.
Bah, il y a un moment, t'as beau être magicien, le gap de la voiture fait son affaire, quoi. Tu vois, genre là, il donne tout. Moi, je pense que Jean-Luc a raison, c'est notre trublion des Grands Prix, c'est celui qui va permettre que les courses soient à chaque fois intéressantes, mais inexorablement, je pense qu'il va perdre des points et à la fin, il sera là que pour permettre au dimanche de ne pas être justement une sieste prolongée à regarder deux papayes décider qui terminera premier, quoi. Donc, mais comme dit Jean-Luc, heureusement qu'il est là. Pour justement donner de l'intérêt et de toute façon, le connaissant, il va se battre jusqu'au bout, même quand il sera loin, puisque je pense qu'il a trouvé une vraie motivation cette année dans le fait de ne plus avoir la meilleure voiture et de montrer à tout le monde que lui, à la différence des autres, même avec la 2 ou 3, il peut encore gagner des courses.
Ouais, c'est vrai qu'il se passe toujours un truc avec lui.
Tiens, bon, voilà, dès le premier virage, t'as vu.
Non, mais alors, parlons de ça. Tu vois, j'allais vous lancer sur ça après le son. Alors, cette manœuvre sur Norris, là, Jean-Luc, premier virage, où il ferme la porte, là, et du coup, Norris est obligé de partir hors des limites de la piste et il rentre après derrière dans le ventre mou, enfin, à la 6e ou 7e position. Comment tu la juges, cette manœuvre? Les commissaires n'ont pas mis de pénalité, hein. Ils ont dit que c'était un fait de course. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah écoute, il faut bien les laisser se battre, mon Nico. Sincèrement, c'est du sport automobile, c'est de la Formule 1, c'est le plus haut niveau de la compétition automobile. Encore une fois, si on repasse des départs, vous pouvez vous amuser à le faire à l'époque, là aussi avec Schumacher, avec Senna, avec les plus grands, bah avec, tiens, on parlait d'Hakkinen qui était lui, Hakkinen-Schumacher, des départs comme ça, il y en a eu plein. Alors les sanctions tombaient moins comme à Gravelotte, comme c'est le cas actuellement. Bah, tant qu'il n'y a pas une manœuvre délibérée pour mettre un pilote hors de la piste, il est à l'agonie lui aussi quand même, Verstappen. Il sait qu'il n'a pas la meilleure voiture, loin s'en faut. Il a sorti un tour de folie. La question, c'est de savoir combien de temps il va rester devant. On est bien d'accord. Combien de temps? Il sait très bien qu'à un moment, il va être attaqué. Bah, on vient le chercher. La manœuvre n'est pas déloyale. Bien sûr qu'elle est limite. Évidemment qu'elle est limite. Mais il ne cherche pas à sortir Norris. Il cherche à virer en tête au premier virage. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas la meilleure voiture. Bah, il freine plus tard. Là, pour le coup, il a encore un peu de frein. Donc, il s'en sert dans le premier freinage. Norris, où il est un peu naïf, c'est... Il l'a un peu dit lui-même, Stella l'a dit aussi. Est-ce que, bah, il le sait que l'autre va faire ça, donc au lieu de tout tenter de se retrouver dehors et de perdre 4 places, bah non, tu dis ok, tu veux y aller, bah, je te laisse devant, moi je me mets juste derrière. Après, maintenant tu vas te défendre, tu vois. Il faut être un peu plus malin, peut-être, un peu plus malin.
Il y avait le débat là sur le premier virage, Louis, est-ce que c'est un bloc-passe un peu, ce que fait Verstappen Bon, moi je suis d'accord avec Jean-Luc, hein. Je pense qu'il faut les laisser se bagarrer, mais...
J'appellerais ça un bloc Verstappen, c'est-à-dire qu'il a vraiment créé une zone grise qu'il maîtrise à la perfection. Il l'a toujours dit, hard but fair. C'est-à-dire que c'est mais constamment à la limite, mais sauf qu'en fait c'est comme c'est à chaque fois, t'es obligé de dire que c'est maîtrisé, parce que quand tu vois derrière Norris qui s'énerve et qui veut faire pareil, bah il finit aussi en dehors de la piste et il doit rendre la place parce que c'est un savoir-faire aussi d'être à la limite. Et moi, je vois le départ, je vois ça tout de suite, je me dis ah il a recommencé, et au début je me dis ça peut valoir la pénalité. La seule chose que je me dis, c'est que t'as le premier tour qui est souvent plus permissif de fait, et il est à l'extérieur. Donc c'est pas pareil que quand t'es à l'intérieur. Tu vois, t'es à l'extérieur, tu peux te dire attends, l'autre il était en pôle, c'est encore un peu son virage. Et après bon, il fait aucun effort, ça c'est clair, mais il fait du max. Donc il est dans la parfaite zone grise où à la fin tu te dis bon bah incident de course. Mais franchement, il prenait 5 secondes ce matin, j'étais là, enfin cet après-midi, j'étais là, c'est pas non plus scandaleux, quoi. Parce que c'est justement la zone grise, c'est comme ces mains dans le foot où tu prends 10 personnes qui ont vu le match et il y en a 5 qui te diront il y a péno, 5 qui te diront il n'y a pas péno. Là, pour moi, ça fait un peu partie de ça. Et donc, il faut accepter la décision sans parler de scandale ou quoi. Juste, bah.
Mais non, mais c'est viril mais correct. Voilà, c'est ça, voilà.
Viril mais correct.
Ça aurait pu être arbitré autrement, ça a été arbitré comme ça, dont acte, quoi. Et voilà.
Tiens, bon, on l'écoute, Verstappen au micro de Canal.
J'ai tout tenté aujourd'hui.
Je n'avais juste pas le rythme. Les pneus surchauffaient. C'était la galère. Je pouvais pas attaquer du tout. Les McLaren étaient largement plus rapides que les autres aujourd'hui. Et il est clair qu'ils ont un bel avantage. Surtout sur une piste avec beaucoup de dégradation. Ils sont largement devant. Voilà, le constat il est implacable, hein, Jean-Luc. Verstappen.
Ah bah attends, vous l'attendiez, eh bien les voilà. Les temps autour en course, alors là c'est effarant, parce que donc on a 1:29.822 pour Piastri au 35e tour, au 36e Norris qui est lancé dans la remontée hein, que l'on connaît, 1:29.746, même pas un dixième de mieux. Et alors derrière on est largement au-dessus, tenez-vous bien, de la barre des 1:30. Russell en 1:30.318, on est quand même à 5 dixièmes des temps, c'est effarant. Verstappen au 41e tour, alors qu'il donne tout ce qu'il a, 1:30.466, bref, c'est un enfer. Il y a les McLaren et il y a les autres, c'est formule McLaren, mais vraiment, hein, il n'y a rien à faire. Là ils sont tous les deux au-dessus du lot, et puis par qu'un peu, 4, 5, 6, 7 dixièmes de plus vite autour. Donc avec ça, tu construis ce que tu veux. Donc une nouvelle fois, j'espère que Verstappen va continuer à faire des pôles et à partir devant, et à tout faire pour y rester. Sinon, encore une fois, on va s'ennuyer rapidement. Hein. Le problème, il est là. Et la course automobile, c'est ça. Pour ça que je souhaitais la pluie, et c'est pour ça ma relative déception, parce que je me suis dit, une bonne petite averse là, en plein milieu du Grand Prix. Alors, pourvu que là aussi, on n'arrête pas tout ça au drapeau rouge, parce que là, on pourrait pourrait en parler aussi. On peut pas rouler, on peut pas rouler. Bon, j'en ai connu d'autres qui roulaient à d'autres époques, mais bon, c'est un vaste débat. Là aussi, on va me dire encore, ah oui, c'était mieux avant, c'était pas mieux, c'était différent. Voilà, ben, tous les pilotes, ouais, tous les anciens pilotes de F1 vous le diront, c'était différent. Mais... bon, maintenant, on fait comme ça.
Mais je reconnais qu'on a tous attendu cette pluie, surtout que quand on regardait le Grand Prix, nous, on avait aussi les prédictions météo des commentateurs de Canal+, qui nous disaient que la pluie était là. Et en fait, on a vécu tellement une première partie de course géniale, 20, 22, 25 premiers tours, on se dit, s'il y a la pluie qui arrive derrière, voilà, ça peut être une course d'anthologie, quoi. Et sur ça, je te rejoins, Jean-Luc. Bon. Comme à tous les Grands Prix depuis le début de saison, les gars, il y a un dossier à ouvrir. Vous le savez, on a l'impression d'être un peu Christophe Ondelat aux grandes heures de fête entrée l'accusé. Là, on va ouvrir le dossier Ferrari. Ferrari qui a été en galère tout le week-end, avec des déclarations de Charles Leclerc après les qualifs, qui dit qu'à la régulière, ils sont battus par les Williams, que s'il y avait du mieux depuis 2-3 courses, là, ils sont loin, quoi. Ils sont très loin. Donc, il y avait du dépit. Et puis, il y a eu ces incidents en fin de Grand Prix, avec un double changement de position, où Hamilton va plus vite que Leclerc, et Ferrari demande à Leclerc de laisser passer Hamilton, parce qu'il était en médium, sauf que les pneus durs de Leclerc, qui sont montés en température, qui ont commencé à performer, ont fait qu'il avait plus de rythme. Donc là, Leclerc voulait repasser parce qu'il était plus rapide qu'Hamilton. Et là, il y a eu des petites frictions et des échanges un peu sympas par radio. Je vous ai monté un petit peu les échanges radio là, d'Hamilton, parce que c'est quand même chouette à écouter.
You always just sit here, so no race.
Can I come back to you?
This is not good teamwork, that's all I'm gonna say. In China, I go out of the way when you're on a different strategy.
Understood, we swap the cars.
Voilà, alors je vous ai monté des petits extraits, mais en gros, au début, il dit, vous voulez que je reste bloqué ici toute la course ou on fait quelque chose? Il y a son ingénieur qui lui répond, bah, je reviens vers toi très vite, Lewis. Ensuite, derrière, tir de Lewis Hamilton, qui dit clairement que c'est pas un bon travail d'équipe. Voilà, il dit c'est pas un bon travail d'équipe, c'est tout ce que j'ai à dire. Et derrière, il dit que en Chine, il avait rendu la position lui, en évoquant un cas similaire lors d'un précédent Grand Prix. Et c'est là que son ingénieur lui dit ben on va faire l'échange, on va swapper les positions. Comment vous avez vécu cette petite tension? Les pilotes ont réagi derrière. On va écouter Charles Leclerc. Ils ont désamorcé le truc. Mais malgré tout, ça montre une vraie fébrilité, Louis, non?
Ah oui, non, mais là, il n'y a rien qui allait à tous les niveaux. En fait, tu te dis, le problème, il est partout. C'est-à-dire que on s'attendait à une voiture qui allait devoir concurrencer McLaren et Red Bull pour le titre. Maintenant, ils galèrent à tenir le rythme de Williams. Et deux pilotes qui, du coup, je pense aussi que dans la tête, mentalement, quand tu te prépares à potentiellement jouer le titre, quand à Miami, tu es au fond du fait-tout, dans la tête, tu vois, il y a de la fébrilité, mais il y a de la frustration, il y a de l'énervement, il y a de l'impatience. Et ça va finir en eau de boudin, cette affaire. Je sens pas bien, tu vois. Même Fred Vasseur, avec Jean-Luc, nous idolâtrons, je le trouve pas bien en ce moment, tu vois. Il a du mal à trouver des arguments ou des explications. Tu sens un peu ce côté un peu tout le monde est perdu, on sait plus où donner de la tête et en train de revenir dans la Scuderia, et ça me plaît pas du tout. Même dans ton petit montage, à la fin, Hamilton a même dit, quand il dit attention, il y a Sainz qui arrive derrière, Hamilton dit
oui, vous voulez que je voulais pas mis ça.
Vous voulez que je le laisse passer lui aussi,
vous voulez que je le laisse passer.
Et alors là, tu te dis, ah ouais, là c'est plus que bittersweet, là, c'est qu'il y a une belle amertume et que, aïe, 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 ça sent pas bon du tout, tu vois pas du tout où ça peut aller mieux. Donc. Le seul point positif serait qu'ils aient une voiture 2026 incroyable et qu'il
suffit. Déjà, on en est déjà
de,
là.
De patienter,
là,
tu vois. Ouais. Bah, là, sur cette saison, je sais que les saisons sont longues, je sais que ça se trouve. Enfin, l'année dernière, ils se sont réveillés tard aussi. C'est vers l'été qu'ils ont commencé à aller mieux. Mais quoi qu'il en soit, même si fin août, t'es revenu au top, bah, t'auras 150 points de retard et c'est fini. Tu peux pas, quand t'es la Scuderia, commencer tes saisons au mois d'août, en fait. Donc il y a un moment, il va clairement falloir faire autre chose. Donc, super, pendant 5 ans, ils ne savaient pas faire un pit stop, maintenant ils savent en faire un. Mais si à chaque fois, pour habiller Paul, tu déshabilles Jacques, tu vois, si tu n'arrives jamais à... si c'est les vases communicants, si tu deviens meilleur à un endroit, tu deviens plus nul à un autre, tu ne vas jamais y arriver. Donc, il va falloir vraiment mettre de la consistance dans cette écurie et pour être au niveau attendu, au niveau demandé, tu vois. Enfin, c'est, je ne suis pas John Elkann, là, mais... enfin, genre, on parle de la Scuderia Ferrari, quoi. C'est pas RB.
Tu vois, je regardais tu parlais du début de saison de l'an dernier, là, en disant qu'ils sont vraiment réveillés l'été. Tu as raison. Mais ils ont quand même fait l'année dernière podium en Arabie
Mais
Saoudite.
Mais c'est ça, ils partaient de moins loin.
Deuxième place en Australie, podium à Miami et podium à Imola. Et la première victoire, c'est en effet à Monaco. Mais tu vois, ils avaient bien scoré avant, Jean-Luc. Là, tu as l'impression. Toi aussi, tu as ce sentiment un peu comme lui de perdition un peu dans l'écurie, d'une écurie qui ne sait pas trop où elle va, qui ne comprend pas ce qui se passe en fait. Parce que d'un week-end à l'autre, tu as l'impression que tout change en fait avec la Scuderia.
Bah, et surtout, Nico et Louis, le fait que le règlement n'est pas évolué d'une année sur l'autre, ou très peu en tout cas, hein, vraiment très peu, puisqu'on est dans la dernière année de ce règlement, c'est 2026, vous l'avez rappelé tous les deux, alors on ne va pas se tourner après le sixième Grand Prix, c'est-à-dire à peine le premier quart de la saison, c'est pas possible chez Ferrari. Alors j'observais moi aussi, Nico, le résultat quand vous l'avez évoqué, non, l'an dernier, si on prend l'Australie par exemple, la Scuderia marque 44 points, au troisième Grand Prix, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal du tout. Ouais. Lors de la Chine, ils en marquent 31. Ils sont les deuxièmes meilleurs marqueurs derrière Red Bull. Non, sincèrement, c'est pas mauvais du tout. 36 pour la Scuderia contre 44. Bon, je vais pas tout vous asséner. Non. Alors, c'est sûr que ça a été meilleur. Maintenant, au niveau des victoires, c'est pareil. Il y a eu cette victoire formidable de Charles à Monaco, bien sûr, qui a été l'embellie fantastique. Mais il y avait eu celle de Sainz. Alors, on sait pourquoi en Australie, parce que Verstappen avait eu un problème. Il y a eu après d'autres victoires, notamment Monza évidemment. Alors c'est pas un peu ces victoires qui ont masqué l'arbre qui a masqué la forêt, mais Ferrari était globalement dans le coup, voilà. Alors que là, les autres ont fait des progrès. McLaren, on n'en parle même pas, mais même Mercedes, et puis globalement, on pourrait presque dire Red Bull, parce que là, je fais confiance évidemment aux deux pilotes, hein, Charles et Lewis. Bon, ils sont pas devenus mauvais d'une saison sur l'autre, et ce qui fait mal au cœur, c'est que effectivement, leur acrimonie, tu parlais, le fait d'être aussi acerbe. C'est la déception. Alors, comment ça se passerait entre les deux s'ils étaient dominants? On les met à la place de McLaren. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques frictions aussi parce que chacun des deux voudrait gagner? Bien sûr que oui. Mais là, c'est vraiment grandi, quoi. Là, pour le moment, je vais oser dire une monstruosité, mais je le préviens avant, hein, comme ça. Est-ce que Hamilton, c'était le plus flamboyant transfert, n'est pas le plus mauvais transfert de la Formule 1 compte tenu des sommes en jeu, compte tenu du palmarès en jeu et compte tenu du faible nombre de points marqués? Enfin, c'est quand même invraisemblable. 41 points pour le moment en 6 Grands Prix, c'est vraiment un rendement. Alors, c'est dû bien sûr à la monoplace, on est bien d'accord. Surtout que Leclerc, il fait pas beaucoup mieux. Hein. Il fait 53 points. Enfin, il en fait quand même 12 de mieux, c'est toujours devant. Et puis, il est régulièrement devant. Mais bon, là, il y a un souci fondamental. Alors, là aussi, on va pas évacuer tout avec l'eau du bain. Fred, le pauvre, oui, son visage le dit. Moi, je lui fais totalement confiance. C'est-à-dire que, là, ça marche pas. Il va falloir, en revanche, que toutes les évolutions qu'ils vont apporter dans les trois Grands Prix à venir, puis je rappelle quand même qu'Imola, c'est aussi les terres de Ferrari, on est bien d'accord.
Ah oui, c'est chez eux. Oui,
et
oui.
Monaco, ce sont les terres de Ferrari. Mmh. Alors là, je peux vous dire que là, on sera dans le drame total si jamais... À Imola et à Monaco, ça marche pas du tout pour les Ferrari, en tout cas pas mieux qu'à Miami. Là, oui. Là, on est dans le drame absolu. Et là, effectivement, alors les remarques des uns ou des autres, bon, faut toujours les mettre à la lumière de l'excitation de la course. Là aussi, c'est pour ça, quand on en vient à ce qu'on reproche aux pilotes en course, en plein effort, enfin, combien y a-t-il de sports où on entend, on l'a évoqué plein de fois, le vélo? On n'entend pas ce que les cyclistes disent, hein, dans les pires moments, encore moins en rugby ou ailleurs, ou en football, où les insultes fusent. Donc là, on reproche aux pilotes de Formule 1 des choses et des saillies, des sorties dans le feu de l'action. On ne peut pas leur reprocher. Non, la seule remarque moi, qui m'a le plus inquiété pour Lewis, c'est quand il a évoqué le fait que lui avait laissé passer Charles en Chine. C'est-à-dire que avoir la froideur d'esprit, j'allais dire même le côté rancunier, de dire « Ah ben moi j'ai joué le jeu ». là, alors on l'a laissé passer, mais trop tard à son goût. Fred a expliqué
ils
que c'était en gros un
tard.
Tour et demi. Ouais, c'est vrai que c'est un tour et demi. Bah, ils étaient sur des stratégies différentes, hein, il faut le rappeler. Tiens, là aussi, paf, un gros pavé dans la mare de la FIA et de leur site officiel, un foutu de donner les montes pneumatiques des monoplaces.
Ouais.
Là, j'ai rarement vu ça. Incapable, c'est lamentable, c'est honteux. Comment voulez-vous, après ça, effectivement, qu'on ait une vision globale ? Alors, heureusement, on a des yeux, hein, on regarde ce qui se passe et on a compris assez rapidement. Mais c'était fondamental dans une course de Formule 1 aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est cette monte pneumatique différente entre Hamilton en dur et Leclerc en médium qui a fait que, du coup, après les changements inverses, ben, on s'est retrouvé dans la situation inverse. Donc, le rendement de la monoplace d'Hamilton en médium était meilleur que celui de celle de Charles en dur. Voilà, c'est facile à comprendre, hein, si on a les clés.
Oui. Tiens, je suis en train de regarder un peu les chiffres là. La Scuderia en 2025, le week-end où ils font le plus de points, c'est à Bahreïn, 22 points. C'était le pire total de la Scuderia au même moment de la saison l'an dernier. 22 points en Arabie Saoudite. Sinon, c'était leur plus mauvais week-end. Voilà. Donc le meilleur week-end 2025 de Ferrari, c'est le pire week-end 2024 de Ferrari sur les 6 premières courses. Ça traduit quand même beaucoup de choses. On va quand même écouter Charles Leclerc, parce que ce qui se passe en course, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Jean-Luc. Il y a un moment, les radios en course, c'est des compétiteurs, les mecs. Bien sûr qu'ils n'ont pas envie de laisser leur place. Bien sûr aussi qu'on sait tous que ton coéquipier en Formule 1, c'est ton principal rival. Donc si t'es plus rapide que le gars, t'as envie de prendre le meilleur sur lui. Et qui plus est quand t'es Hamilton et que t'es dominé globalement depuis le début de saison. Donc pour lui, c'était super important aussi. Écoutons Charles Leclerc. Je vous ai pas monté Lewis Hamilton, mais les deux sont vraiment, ont vraiment le même parti pris. Voilà, ils ont totalement désamorcé ce qui s'est passé via la radio.
Dans tous les cas, je lui en veux absolument pas. Je sais pas quel était son point de vue ou sa situation. Moi, la première fois qu'on m'a demandé de swapper, je l'ai fait 100 mètres plus tard. Pas pour dire qu'il l'a pas fait, hein, juste je l'ai fait de mon côté dès que ça m'a été demandé. On va discuter avec le team.
Voilà, on va discuter avec le team. Mais en gros, Charles Leclerc, il disait qu'il n'y avait aucune incidence entre les deux. Et Hamilton a dit pareil, quoi. Il a dit en course, des fois, on chauffe un petit peu. Des fois, on reste un peu sur notre faim. Mais il y a zéro problème avec Charles Leclerc. Louis, Jean-Luc, il parlait d'un truc quand même. C'était cette rancœur un petit peu d'Hamilton par rapport à la Chine. Bon, c'est un super champion, hein. Septuple champion du monde. Donc,
un peu surcoté, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être encore plus que les autres, ces mecs-là, ils oublient rien, en fait. Ils oublient rien, mais c'est vrai que ce côté où t'es capable de le dire dans la voiture, ouais, à ce moment-là, alors que c'est un week-end où les deux pilotes galèrent et où l'écurie galère, est-ce que toi, ça t'inquiète vraiment ?
Non, moi, ça me surprend pas, parce que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, entre eux... C'est aussi pour ça qu'ils ne le prennent pas personnellement, c'est que c'est plus dirigé à leurs équipes qu'à leurs coéquipiers, tu vois. Enfin, un peu moins dans le cas Albon Sainz, parce que là, on en parlera peut-être, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais sinon, globalement, pour moi, je pense qu'ils tous, ils peuvent te dire « Ah, l'année dernière, Bahreïn, 37e tour, j'ai dû le laisser passer. » Tu vois, je pense que ça, je pense que dans leur tête, de toute façon, c'est un prêté pour un rendu. Et faut toujours qu'à la fin, si tu veux, ça soit 50-50, mais en vrai, plutôt 51-49 pour moi, tu vois. Et je pense qu'ils sont tous un peu comme ça et que c'est normal. Comme le disait Jean-Luc au début de ce podcast, faut être méchant, Lando. Tu vas pas y arriver en étant gentil. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand t'as le camembert dans ton bec, tu veux pas en perdre une miette et tu veux pas en donner une miette à ton coéquipier, puisque tu sais que c'est le premier qui pourra en jouir et à tes dépens, quoi. Donc c'est pour moi, là où je suis pas trop inquiet, c'est que ça fait partie, on va dire, des éléments de langage presque du pilote de Formule 1 moderne, de rappeler que il a fait le bon coéquipier telle date, que peut-être que la dernière fois on l'avait un peu désavantagé, donc que maintenant c'est à son tour d'être avantagé. Enfin voilà, moi je suis pas plus inquiet que ça. On avait déjà entendu Lewis à la radio, il est quand même, tu vois, c'est pas le plus simple non plus. Donc non,
oui,
moi j'en ferai pas. Voilà, je suis plus inquiet par la situation globale de la Scuderia et de la bagnole de cette année que de ça, quoi.
Et un dernier mot, Monico, ouais, enfin, si tu, à moins qu'on change, mais non, si on reste sur Ferrari, quelle horreur cette voiture. Qu'elle est hideuse, mais tu le disais. Ah oui. Non, mais attends, c'est un tas de boue. Comment un designer digne de ce nom peut faire un truc pareil ? Sérieusement. Alors, je sais bien, on a compris que le sponsor balançait un paquet de dollars incroyable, mais au point d'enlaidir cette voiture, au point de la rendre mais monstrueuse. Mais ça, c'est même pas un dessin d'un enfant de 3 ans. C'est affreux. C'est monstrueux. Alors je veux bien que là aussi, ce soit dans l'air du temps d'avoir des nouvelles déco, notamment à Miami. Là aussi, on pourrait épiloguer sur les autres, enfin avec les voitures roses et les machins. Là aussi, chacun son goût. C'est pas trop le mien. Puis je sais pas, une monoplace aussi, ça a une éthique, ça a une patte, ça a une teneur. Ça, au premier regard, on les identifie. Alors si on les change de couleur sans arrêt, au gré du sponsor qui balance le plus de pognon à ce moment-là, on va arriver à des trucs mais monstrueux, quoi.
On va arriver au NASCAR.
Ça n'a aucun sens. Cette touche de bleu, là, enfin, c'est même plus une touche de bleu, mais ce bleu sur la monoplace, voir les pilotes en combinaison bleue et blanche, ça n'a aucun sens.
Immonde.
Soit tu fais. Ah, parce qu'à la limite, non, mais si tu veux faire une grosse opération de com. Eh ben, tu transformes totalement
ta monoplace. Tu n'es pas en rose comme tout le monde.
Non mais voilà, tu l'as fait bleu et blanche, tu sors un truc unique, j'en sais rien, tu designes un truc mais vraiment unique et tu t'enlèves le rouge. Mais là tu sens qu'ils ont voulu garder un peu le rouge parce que c'est Ferrari, c'est l'identité, c'est historique, mais que t'as le sponsor qui aligne derrière, donc on va faire aller 3/4 de rouge et 1/4 de bleu. Et les combinaisons, bah bleu et blanc, parce que les combinaisons on s'en fout un peu, donc s'il n'y a pas de rouge, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que ça n'a. Bon, il n'y avait rien qui allait pour faire.
J'espère, Jean-Luc, quand même, que tu n'as pas besoin d'une imprimante neuve parce que tu ne vas pas avoir de réduc tout de suite.
T'as raison, je ne sais même pas quelle est la marque de la mienne. J'appuie sur un bouton et ça crache des feuilles. Donc.
C'est le principal.
Et je remets de l'encre qui coûte la peau des fesses, par parenthèse. Oui. Et je comprends très bien pourquoi ils peuvent mettre leur couleur.
Ils ont du blé.
Ah ben c'est pour ça qu'ils ont du blé, oui. Alors, un autre détail.
Ils ont 152 points de retard, Jean-Luc, Ferrari, au championnat.
Non, mais c'est affreux. Bah, il ferait bien de repeindre la ligne de points. Juste un autre détail à propos des casques. Moi, ça me gonfle aussi maintenant.
Ouais, ça y est, je t'ai rejoint. Ça y est, ça m'a gonflé aussi. C'est trop.
Vous me faites plaisir. Parce que quand même, un pilote, on ne voit plus rien des pilotes aujourd'hui. Ils sont tellement planqués, ils sont tellement dissimulés. On ne voit plus rien du tout. On aperçoit un bout de casque. Alors, si ce bout de casque, il change de couleur à chaque Grand Prix... Et tu vois pas les numéros non plus, ça y est, j'ai terminé. Alors après, je vous promets, je termine. Mais tu peux même pas lire les numéros. Alors tu peux pas lire les numéros, tu vois pas la couleur du casque. Bah tu sais que la caisse, si elle change pas de couleur pour l'occasion, c'est une rouge, alors ça doit être une Ferrari, mais c'est pas sûr. Hein.
Enfin, mais c'est sûr que pour commenter une course à vitesse réelle, alors maintenant il y a des datas dans tous les sens.
J'ai vraiment fait volte-face. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là quand il y avait la règle, il y a encore quelques années, pas plus de 3 casques différents de ton casque habituel ou quoi. J'étais là, non, mais franchement, mais laissez-les faire et tout. Et certains disaient, ouais, mais vous allez voir, l'effet pervers, c'est qu'à la fin, ils vont changer tout le temps pour tout. Il y a le marketing qui va se mettre là-dedans et tout.
Derrière. Et tu crois qu'ils les vendent pas les casques ?
Et en fait, maintenant, c'est infernal. En plus, le nombre de fois où c'est juste le plus gros cliché du pays qui colle sur leur casque. Donc, dans certains pays, ça fait rire, mais dans d'autres, du coup, je trouve
au
ça
Brésil,
presque moyen.
Au Brésil, c'est bien, je suis d'accord, au Brésil.
Mais je me souviens de le casque pizza en Italie de Lando, le casque je sais pas quoi. Enfin, tu vois, et donc, bon, les bonnes idées, en gros, tu les as faites les 2 premières années. Et maintenant, franchement, donc à la rigueur, si tu gardes ton design et qu'il y a quelques petites modifs pour le Grand Prix, tu vois, un petit clin d'œil, pourquoi pas. Mais un casque par Grand Prix, ça y est, je crois, c'est la trentaine, je suis devenu un vieux con, je sais pas, mais...
Non, mais alors... Bienvenue au club. Bienvenue au club.
Mais vous avez pas aimé le petit casque disco de Lando Norris, là ?
Si, mais Dance en fait, Floor. On l'aurait pas eu, ça m'aurait fait gagner du temps aussi.
Je trouvais ça
plouc et ringard, mais bon, c'est mon opinion.
Ouais, c'était un peu trop, mais c'était le bling-bling de Miami, Jean-Luc, tu sais.
Bah oui, mais il y a pas que ça à Miami.
On est dépassés, nous, oui.
Venez me voir, je vous montrerai autre chose. Il n'y a pas que ça. Ça, si tu veux, c'est même pas 2% du territoire. Bon, alors après, on peut se concentrer là-dessus. Hein.
Qu'est-ce que j'allais vous demander ? Oui, du coup, sur Ferrari, on a fait un peu le tour. Non, on n'a quand même pas évoqué le crash de Leclerc en sprint parce qu'on se focalise beaucoup sur le dimanche. Mais ça a été une galère, en fait. Quand on parle de week-end catastrophique, c'est vraiment un week-end catastrophique. Hein, parce que Charles Leclerc, qui plie la monoplace dans le tour de formation de la course sprint aussi, Louis. C'est une erreur qui fait mal. Hein.
Ouais, ouais, mais ça va bien avec l'ambiance actuelle de l'écurie. On l'a pas vu, hein. C'était même pas à l'antenne, hein, je crois. C'était dans le tour de warm-up ou
dans le tour de sortie des stands.
Ouais, c'est
sortie
ça. Ouais. Donc là...
Ouais. Il part en hockey planning et il prend dans une courbe à gauche et il prend le mur.
C'est-à-dire que quand on dit à Isaac au premier Grand Prix, dis donc, c'est gênant ce qui lui est arrivé, machin et tout. Bah là, Charles, je l'adore, mais là, ça c'est très très laid, c'est très très laid. Et quand on connaît Charles, on peut aussi penser que c'est parce qu'il n'y a rien qui va autour, quoi, et que du coup il fait des choses qui n'ont pas lieu d'être.
On peut enchaîner sur Williams quand même. Alors pour le coup, s'il y a une écurie qui est en train de titiller les autres là et qui bosse bien, ouais, et qui bosse bien, Jean-Luc, c'est Williams avec un duo de pilotes. Bon, on en a parlé bien avant le début de cette saison dans le paddock RMC. On était tous ultra ultra confiants et on avait très envie de voir ce line-up là, cette line-up entre Alex Albon et Carlos Sainz. Et en plus là, il y a une voiture qui va terriblement vite en ligne droite. Ils arrivent à mettre franchement les choses, maintenant je crois que c'est l'expression consacrée, en Formule 1, bout à bout à peu près à chaque week-end pour aller chercher des points, et ils sont en train de titiller les meilleurs, pas McLaren, mais en tout cas il y a match avec les autres, hein.
Eh bien écoute, ils sont largement et solidement implantés à la cinquième place. Alors effectivement, dans l'état actuel de la situation, et là aussi à part un délabrement plus profond de Ferrari qui les précède, mais c'est quand même 94 points, hein, pour Ferrari au championnat et seulement 37 pour Williams. Donc ils sont vraiment tout seuls à la cinquième place et loin devant Haas qui n'en a que 20. Mais effectivement, ils ont marqué à tous les Grands Prix à l'exception de Bahreïn. Donc tu parlais du duo de pilotes et là aussi, on les apprécie vraiment tous les deux pour des raisons différentes. On savait qu'Albon, qui lui aussi avait pris un coup sur le casque, hein, lors de son passage chez Red Bull, on s'en rappelle, mais c'était bien rebecté. C'est un type solide. En plus, j'allais dire sympa, pas de grandes déclarations. Quant à Sainz, je crois que c'est plus la peine de faire l'article. On l'a fait déjà l'an dernier chez Ferrari. Ignominieusement, je pèse mes mots, chassé de chez Ferrari. Bon, c'est la vie. Et là aussi, elle attaque du dernier virage au dernier tour sur celui qui lui a pris son baquet. Alors, je sais qu'il n'en veut pas à lui, parce qu'il ne peut pas en vouloir à Hamilton, mais il en veut quand même à certaines personnes chez Ferrari, et ce n'est pas à Fred Vasseur qu'il en veut, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était quand même une petite revanche, une belle revanche s'il était passé. Bon, ce n'est pas passé. Après, il a dit, il a changé de trajectoire en plein freinage. En tout cas, on peut se réjouir du fait que le travail, là aussi, solide de James Wolff et toute l'équipe, Williams, ils reviennent de tellement loin. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de budget, donc il n'y avait pas eu de développement pendant des années et des années. Mais c'est une très très grande équipe de Formule 1 et on a plaisir à les revoir vraiment parfois au-dessus du palier. Alors on rappelle quand même que c'est un moteur Mercedes, hein, qu'ils ont. Ils en font des merveilles de ce moteur Mercedes. Le moteur, comme par hasard, qui est dans les McLaren et évidemment dans les Mercedes. Donc non, c'est... je pense que le moteur, globalement, on va parler de groupe propulseur maintenant, n'est pas non plus à exclure dans les excellents résultats de Williams.
Alors vous savez que Alex Albon a terminé cinquième là à Miami, c'était le cas déjà en Australie avant cette saison 2025. Alex Albon, un week-end où il prenait 10 points ou plus, ça remontait à 5 ans en arrière, Abu Dhabi 2020, où il avait pris 12 points, il était encore chez Red Bull à l'époque. Donc autant vous dire que ça fait une éternité depuis qu'il est arrivé chez Williams qu'il n'a plus la possibilité d'aller chercher des résultats comme ça. C'est pour vous montrer un peu les perfs d'Albon. Qu'il a, alors sur ce Grand Prix-là, Louis, Albon, c'est devant les deux pilotes Ferrari, c'est devant une Red Bull et c'est devant une Mercedes.
Ouais, et c'est devant une Alpine et une Steak aussi.
Ouais. Devant une Alpine parce que l'autre n'a pas terminé.
Comment tu les appelles? Steak.
Ouais, steak. Steak frites. Mais Albon, il est quand même très régulier ce garçon. Jean-Luc le disait depuis son coup dur, un peu à la manière de Pierre. Il a su rebondir. Et un peu après, il a connu aussi un Williams vraiment pas fameux, hein, parce qu'il rebondit, mais il rebondit dans un Williams dernier et bon dernier. Et il a su être patient aussi. Et puis là, maintenant qu'il peut exploiter des choses, il le fait très bien. À tel point que ça a agacé Carlos hier parce qu'il considère qu'il n'aurait pas tout à fait écouté les consignes qui était de rester derrière Carlos. Une fois dépassé, il l'a redépassé. Mais à la fin, tu te retrouves à regarder la course tout le long du Grand Prix. Tu vois les W tout là-haut, juste derrière les grosses écuries. Donc vraiment le top of the rest, best of the rest. Et ça, je pense que quand t'es des vieilles carnes comme nous, tu peux pas être insensible à revoir Williams ici, et tu n'espères qu'une chose, c'est de les revoir dans la bataille, parce que ouais, c'est une écurie historique. Ils ont, comme dit Jean-Luc, avec Mercedes, un groupe propulseur, un moteur qui leur permet, s'ils vont dans le bon sens au niveau châssis aéro, de pouvoir se battre. Donc tout la dynamique est bonne chez eux, et James Ball fait vraiment du bon boulot qui commence à être vu. Et alors moi maintenant, je commence vraiment à attendre des choses presque, tu vois. J'ai envie d'une petite folie. Ils ont quand même pas été très heureux, tu vois, c'est-à-dire que Alpine, qui fait quand même pas les choses très bien et tout, tu sais pas trop comment, il y a un podium, une victoire qui leur tombe dessus en 2-3 ans. Williams, ils n'ont rien eu de tout ça depuis très longtemps. J'aimerais bien que cette année, ces bonnes perfs, avec une course un peu folle, leur mettre quelqu'un sur la boîte.
De la pluie.
Ouais, voilà. Ouais. Leur mettre quelqu'un sur la boîte. Et si je devais choisir entre les deux, je dirais même Alex, comme c'est lui qui est là depuis plus longtemps, et Sainz des podiums, il en a quand même fait quelques-uns en rouge. C'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir à voir cette année. C'est un petit podium de Albono, quoi.
Ils ont déjà marqué 20 points de plus que sur l'ensemble de la saison 2024. Williams, c'est pour vous dire un petit peu le step et la progression de cette écurie. Et puis je voulais qu'on termine ce podcast. On pourra parler un petit peu nos Frenchies. Ouais. C'est vrai, ça passe vite hein, dès qu'on parle des Grands Prix.
On devrait faire des Ironman podcasts, des podcasts 8 heures.
j'ai pas les cannes. Clairement, je vous dis. Pour moi un vrai Ironman et même pour un podcast, j'ai pas les cannes. Non, mais parlons du côté du début de saison, hein, George Russell, mais qui est encore là, Jean-Luc, troisième. Ah oui. C'est son quatrième podium en six courses. Et en plus, c'est ce que je disais un petit peu dans la présentation, c'est que tu as la sensation que c'était pas un week-end où il était au top. Et malgré tout, le dimanche, il arrive à être à chaque fois présent, au rendez-vous, aller chercher cette troisième place. Et quand tu te dis que c'est quand même quatre podiums en six courses, ça veut dire que quatre fois, c'est lui qui est le meilleur derrière les McLaren. En fait, il y a Verstappen, hein, bien sûr, qui va les titiller, mais c'est pas loin d'être l'égal de Verstappen sur ce début de saison en termes de régularité et de performance.
Exactement, mon Nico. Écoute, moi, je suis ravi pour lui aussi, parce que Russell, voilà, un type pareil. Alors, on peut le trouver en dehors du baquet, si tu veux, un peu discret, voire un peu mièvre. Mais non, il est président du GPDA, et ça ouvre le sujet suivant, j'espère, mon Nico, concernant la FIA et les relations des pilotes avec la FIA. Mais
ah oui, vrai, sur la piste... Tu fais bien de me le dire,
Ouais. Bah, j'y tiens, tu sais, là.
T'es tombé aux oubliettes.
Je suis teigneux, là. Je suis pas champion du monde, mais je suis teigneux.
Bien vu.
Bon, et donc en deux mots, Russell, il fait un boulot remarquable avec un matériel qui était inégal et inconstant, surtout l'an dernier. Hein. On se rappelle, ça marchait un coup. Eux-mêmes, ils ne savaient pas pourquoi. Sur certains circuits, la Mercedes était là. Sur d'autres, elle n'y était pas du tout. Et puis là, il fait le boulot. Il a été dans l'ombre, il faut bien le dire aussi. Même s'il était devant depuis deux saisons, il l'a très discrètement rappelé. Mais depuis deux saisons, chez Mercedes, eh bien, Russell, globalement, faisait mieux qu'Hamilton. Donc, maintenant, il n'a plus l'ombre d'Hamilton. Il assume totalement ce rôle de premier pilote. Il est ravi jusque-là, ça va peut-être changer, mais de voir Antonelli venir le contester, parce que là aussi, on va l'associer à l'hommage. Hein. C'est alors, on va quand même dire que c'est une pole, allez, parce que moi, ça m'énerve ce distinguo entre... C'est un tour le plus rapide sur un circuit, voilà. Donc, la petite pole, on va dire, la sprint race pour Antonelli à 18 ans, il a pulvérisé les records. Hein. Jusque-là, c'était 21 ans, le pilote le plus jeune à avoir décroché une pole. Donc, on en revient à Russell. Il assume ce rôle de grand frère. C'est exactement le rôle qui lui a été assigné. Il guide les pas du petit. C'est lui qui a fait évoluer la Mercedes dans l'intersaison, évidemment, avec son expérience. C'est lui qui a un retour d'infos qui est, paraît-il, excellent de par l'équipe. Écoute, je suis ravi pour lui. Voilà, c'est parfaitement mérité. Alors, faire de lui un prétendant au titre, je ne crois pas, évidemment, hein, mais il est à 6 points de Verstappen. Et on va dire la bataille pour la place sur le podium. C'est ça son ambition. Derrière, évidemment, les deux papayas. Ça va être excellent, là aussi. Je pense que la bataille Verstappen-Russell, ça va être sympa.
Louis, un petit mot sur nos Français quand même. Adjar avait quelques petits regrets parce que
moi aussi hier,
sur Instinct, il disait qu'il n'avait pas été très bon sur Instinct et qu'il aurait pu aller chercher la dixième place de Tsunoda.
Oui. Alors je sais pas à quel moment il parle, si c'est sur son dernier stint et qu'il parle de la place avec la Pena ou si il parlait de l'avoir en piste même globalement. Mais sur le dernier stint, du coup, le dixième qui est Yuki à 5 secondes de pénalité. Et il passe, plus de 10 tours. Il doit passer une quinzaine de tours entre 4 secondes 5 et 5 secondes 5 derrière Yuki. À 2 tours de la fin, il est à 4 secondes 9, 4 secondes 8. Et à 1 tour et demi de la fin, il repasse au-dessus des 5 secondes. Il repasse jusqu'à 5 secondes 3. Et il n'arrive pas à retomber en dessous et il finit à un dixième et demi. Et c'est vrai que c'est rageant parce que, je sais pas, mais j'avais la sensation qu'il avait quand même moyen d'aller attraper ce point en profitant de cette pénalité. Après, bon, tir groupé, oui, ils font 11-12-13, il est premier des trois. Franchement, c'est un début de saison super et les deux autres Français derrière, à l'inverse, c'est compliqué. Pierre, c'est compliqué quand même. Ce week-end est horrible quand même. Hein.
Il va chercher un point en sprint. C'est même pas
Il va chercher un point en sprint.
Parce qu'il
y a des commissaires qui enlèvent la moitié de la grille. Donc c'est sûr que c'est plus simple.
Oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est que s'il était athée avant cette course, depuis, il croit en quelque chose. S'il était athée avant cette course, il s'est passé quelque chose de divin.
C'est ça.
Saint et FIA, priez pour lui.
Donc, c'est très compliqué. Esteban, sa voiture, elle peut être 12 ou 19. Personne, même lui, ne comprend pourquoi. Donc, c'est vraiment pas joyeux de ce côté-là. Et il va falloir encore pour eux du mental, de la patience. C'est vrai que quand tu retraces un peu leur carrière, tu te dis putain, mais vous aurez jamais eu une bagnole un peu potable, un peu sympa.
Ocon termine 12e, il arrive à se glisser en Q3, c'est pas si mal, mais bon, c'est vrai que c'était un week-end un peu plus difficile, en tout cas pour nos Français. Bon, ouvrons les deux derniers chapitres que vous voulez ouvrir, les gars, parce qu'on m'a dit, notre excellent boss des podcasts, Arthur Robert, m'a dit que tu voulais reparler un petit peu de Piastri.
Ouais, 10 secondes.
Du coup, on terminera sur Piastri. Jean-Luc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la FIA ?
Bah, écoute, que les bouffonnades continuent pendant les travaux. Écoute, je sais même pas par où commencer. Donc, j'ai parlé de la panne du site, ça peut arriver, mais pas à ce niveau de technologie, pas à Miami, la ville hype et tout. On est infoutu de nous donner les pneus des monoplaces sur la grille. Et après, ça dure, hein, tout le Grand Prix. Ils sont complètement largués là-dessus. Bon, heureusement, au niveau des chronos, ça fonctionne à peu près. Je trouve que ça, c'est lamentable, mais ça, c'est un détail. Non, le reste, c'est plutôt... Alors, notre ami Bin Sulayem, qui va sortir une phrase totalement ambiguë en disant « Oui, je vais réfléchir effectivement à modifier ce qu'il a lui-même mis en place pour sanctionner très durement les pilotes pour prononcer quelques mots en dehors des clous. » Enfin, ce que lui considère comme étant en dehors des clous, lui personnellement. Parce qu'apparemment, personne n'est d'accord avec lui, même à la FIA. Donc, c'est du grand n'importe quoi. La question est de savoir, et ça c'est beaucoup plus important, est-ce qu'il faut donner un siège quelque part officiel à la FIA, aux pilotes, au GPDA, la réponse est 1000 fois oui. Et depuis toujours, les pilotes, ce sont eux les acteurs. Personne mieux qu'eux peut savoir ce qui se passe sur la piste et qu'est-ce qui est bon pour eux. Et même s'ils sont parfois pas d'accord, là aussi on va pas faire une vision et démontrer et décrire une vision angélique de la situation, mais ils se mettent d'accord et ensuite ils ont une position commune qui est défendue en l'occurrence par Russell, qui est un des meilleurs présidents qu'il ait jamais eu pour le GPDA, me semble-t-il, parce qu'il dit les choses avec clarté, avec fermeté, sans polémique. Donc il a réagi sur les propos de Sulayem en disant « Bah oui, bon, il dit ça, mais en attendant, dans les faits, c'est toujours pareil. » Et vous savez qu'en rallye, ça a été la même chose. Hein. Un pilote français a été durement fonctionné pour un mot à l'arrivée d'une spéciale. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est de la bouffonnerie totale. Moi, ce qui m'angoisse beaucoup, c'est que les élections arrivent à la fin de l'année et qu'officiellement, il n'y a pas de candidat. Donc, on est reparti et la dictature va se poursuivre encore.
Mais vas-y, Jean-Luc.
Ben voilà.
Tu sais, nous, on a des moyens. On a des moyens, RMC. On peut te pousser. Hein.
Alors, oui, mais attends, tu sais, moi, la politique, tu vois comment oui. je m'exprime, c'est pas trop mon truc.
Oui,
hein, sinon,
oui c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, après, je te vois pas trop dans le sérail politique et tout ça, c'est vrai que.
Non, j'ai pas le vocabulaire qu'il faut, j'ai pas les formules en poulet qui ne veulent rien dire, bien creuses. Après, on peut ne pas être d'accord, c'est ce que je dis tout le temps, et c'est au contraire, c'est ça qui est intéressant, de discuter avec des gens qui ne sont pas de son propre avis. Et la preuve, regardez, j'ai haussé. Allez, je vais arriver à 4 points, voilà, 4 points pour ce
ah
Grand
oui
Prix. Bon, vous m'avez convaincu, les gars.
c'est énorme ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est vrai que c'est complètement ridicule. Son retour là, sur ses positions pour le langage des pilotes, ça n'a aucun sens. Louis, à toi la fin de ce bel épisode.
Non, mais sur Oscar Piastri, il y a un truc qui m'a interpellé hier, parce que nous, on est entre nous dans ce podcast, en tant que fan de F1, on connaît Piastri sûrement même depuis la F2 chez Alpine pour la plupart des gens qui écoutent le podcast. Mais hier, je parlais avec un de mes potes qui, lui, suit le sport, tu vois, de manière globale. Il est plutôt rugby et il suit tous les sports comme ça, un peu au gré des notifications push de l'équipe, tu vois, on va dire.
Oui, oui.
Donc des milliers, des millions de gens en France qui aiment le sport, mais qui ne le suivent peut-être pas comme nous. Et hier, il m'envoie un message en me disant « Faudra m'expliquer d'où sort le mec qui s'appelle Piastri et qui gagne sa troisième course d'affilée. J'ai dû louper un truc. »
Ah.
Et en fait, je trouve que ça montre vachement qui est le phénomène Piastri. C'est-à-dire que le gars explose déjà avec 6 victoires, plus que son coéquipier, 3 victoires d'affilée, 6 jeunes. Et en fait, il passe de inconnu du grand public à, en fait, au moment où vous me connaissez, je suis déjà un monstre. Tu vois, et je trouve que c'est marrant et qu'on est en train d'assister justement. Là, il sort de la bulle F1 et il commence à être connu par le grand public du sport. Et ça montre qu'il devient un nom, il devient quelqu'un et que, comme on le dit depuis longtemps, il est quand même pas fait comme les autres, lui non plus, ce gars-là.
Nico, si tu me permets, deux chiffres, hein, parce que ceux-là, ils sont importants.
Jean-Luc.
Piastri, 32e Grand Prix dans les points. C'est le 4e pilote de l'histoire. Tu te rends compte déjà? C'est impressionnant, vraiment très impressionnant. Et Piastri, 6e victoire, tu viens de le rappeler, Louis. Ça fait de lui l'égal, tenez-vous bien, de Gilles Villeneuve, de Jacques Lafitte, de Ricardo Patrese et de Sergio Pérez. Ben voilà, je crois que... Ça suffit à...
Là, t'aurais pu t'arrêter à l'avant-dernier.
Ah, t'es dur. Veux que je sois honnête jusqu'au bout pour... Allez, je vais l'être. Il y en a un autre.
Ah.
Son prénom, c'est Ralph, mais j'ai pas voulu le mettre. J'ai honte. Mais ça démontait tout le système.
tu peux avoir honte. En tout cas, son pourcentage d'abandon depuis qu'il est en Formule 1 aussi, 5,77%. Il termine tout le temps une course et il est tout le temps dans les points.
Ouais. Et en plus, maintenant, il commence un peu à être content quand il gagne. Donc,
oui, tout
ça fait une sorte de sourire.
Ouais,
c'est
oui,
ça, quand
exactement.
Il a la commissure d'élèves qui remonte, c'est le sourire.
Ouais,
c'est
voilà. Non, c'est l'éclat de rire. Il est mort de rire. Il est en plein fou rire.
Bon, en tout cas, il a le même sourire que Raikkonen. C'était à peu près la même chose qu'Kimi Raikkonen. Bon, Kimi Raikkonen, on a peut-être attendu 10 ans avant de le voir frémisser.
Ah, parce que vous l'avez vu sourire, moi j'attends toujours.
Oh, un petit frémissement au niveau des lèvres.
Oui,
on l'a déjà vu.
Oui, il devait faire.
Après une bière, il était comme ça.
Bon, les gars, merci beaucoup. Je vous rappelle que le prochain Grand Prix, la Formule 1, retourne en Europe. Ce sera à Imola le week-end du 18 mai. Bien évidemment, on sera là avec vous pour le warm-up du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce Grand Prix à Imola. Un grand merci, n'oubliez pas de nous noter. Et puis vraiment un grand merci parce que je ne l'ai pas dit à Louis, je ne l'ai pas dit à Jean-Luc, mais au niveau des chiffres, le podcast est vraiment en train de cartonner. C'est super plaisant
génial
pour nous de voir que tous les épisodes qu'on fait sont de plus en plus écoutés. Ça veut dire que vous êtes touchés aussi par le format, ça vous plaît, vous le consommez. Donc n'hésitez pas à réagir avec nous, à nous envoyer des messages,
hein,
sur les réseaux
aussi.
Sociaux. Voilà, et j'allais vous en parler. On a lancé un tout nouveau compte Instagram, RMC Formule 1, où on fait des petites vidéos d'influenceurs là. Vous allez voir que il y en a qui font des vidéos. Ouais, bon, bah, c'est là que tu vois que moi j'ai un physique de radio plus qu'un physique de télé. Je m'en suis rendu compte en faisant ces vidéos.
Les auditeurs s'en foutent, mais ma mère m'a dit, bien, mais il est beau gosse, hein, Nico. Je voyais
pas merci.
Comme ça, tu vois.
Donc, bah non, tu plais. T'embrasses ta maman.
Bon, tu plais aux mamans quand même. C'est déjà pas mal, Nico.
Ah, bah, oui, bah, ah, j'avais pas vu comme ça.
Bah maintenant, tu sais, j'ai basculé, c'est terrible. En tout cas, merci pour tout et allez suivre ce petit compte Instagram là si vous êtes passionné par la Formule 1.
On va essayer de vous mettre
des petits contenus un peu chouettes. Bah tiens, on parle du casque de Lando Norris d'ailleurs dans une petite vidéo. Donc RMC Formule 1, c'est le nouveau compte Instagram de RMC. À très vite les gars, bye bye.
Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.